Récit nocturne. Il est nuit. La tribu, étendue sous les cocotiers, au clair de lune, se laisse bercer par la voix des brisants et par les récits du conteur, qui, moitié endormi, moitié veillant, dit des histoires fantastiques comme le rêve. Quelques-uns l'écoutent avidement. D'autres, ainsi que lui, moitié sommeillant, tantôt suivent le conteur, tantôt leur propre imagination. Dans les bois résonne tristement l'appel du notou. On dirait la corne des bouviers. Les tabous des cases estompés par la lune deviennent des fantômes avec leurs robes de terre rouge ou leur linceul de chaux. Un souffle d'orage est dans l'air. De temps à autre, sur la tribu couchée à plat ventre, une roussette fait l'air plus frais sous ses ailes. Loin, bien loin, sont les limites des blancs. C'est le sol des pères, vierge des pas de l'étranger. Le village est riche. Il a un abri pour les pirogues, des champs d'iname et des tarots. On y mange tous les jours de la récolte ou de la pêche. On y dort toutes les nuits à l'ombre. Que peut-on désirer de plus? C'est pourquoi le conteur est triste et raconte des histoires lugubres. Autrefois, dit-il, à peu près au temps où vinrent les premières pirogues des Blancs, une tribu était comme la vôtre, riche et puissante. Un soir, elle alla avec ses fils et ses filles se réjouir au bord de la mer. Les jeunes gens se mirent à siffler, ayant le cœur gai. Les jeunes filles riaient. Il y avait tant de monde dans la tribu qu'elle tenait le rivage sur une longue file. Les vieux parlaient entre eux de construire un nouveau village. Tout à coup, une montagne s'écroula et couvrit la tribu. C'est pour cela que depuis on ne siffle plus en passant devant les montagnes d'un grand nombre de tribus. Mais croyez-moi, ce n'est pas le sifflement qui attire le rocher, c'est le bonheur. Moi qui raconte, je l'ai vu bien des fois. La première, c'était tout enfant. Je me trouvais si heureux que je dormais le moins que je pouvais afin de me sentir toujours vivre. Mais qui donc remue là-bas dans les branches? Si c'était le vent, il agiterait le faîte. Je ne voyais pas que ma mère travaillait trop. À force de porter de lourdes charges, elle devint toute courbée et un jour, étant tombée sous le poids du poisson qu'elle rapportait, elle se coucha et mourut. Mon père prit une autre femme qui me battait. Mais étant devenu grand, je cherchais moi-même ma nourriture et elle ne me disait plus rien. Ensuite, une ancienne femme du grand chef qui s'en allait de tribu en tribu, m'ayant dit que j'étais beau, je ne pensais plus à autre chose, et cela me rendait encore heureux. Une nuit que j'y songeais, un coco me tomba sur le visage, m'écrasa le nez. C'est depuis ce temps-là que je suis laid. Ma fiancée ne voulut plus de moi. Pourtant, je l'aurais rendue bien heureuse. J'aurais porté pour elle toute la charge chaque fois que nous aurions été seuls, me contentant de la remettre sur son dos devant les taillots. Elle aurait mangé avec moi, je ne l'aurais jamais battue, et elle ne m'a pas voulu. Elle s'est laissée emmener dans la case de Veyamijiakul, la punaise, qui lui faisait porter toutes les pierres de sa fronde, toute sa chasse et toute sa pêche. « Va donc voir, Eloué, liane verte, pourquoi les feuilles s'agitent. » Mais Eloué n'alla pas voir, il n'eut pas le temps. C'était une surprise d'une grande tribu d'une autre Dao qui cherchait un village pour s'y établir. Il avait raison, le conteur. Ce n'est pas le sifflement qui fait couler la montagne, c'est le bonheur.